Voilà, oui, bonjour, hein, bonjour à tous. À tous, je crois que le plan doit être à la fin de... Voilà, sur la dernière table, voilà, le plan du cours. Bon, eh bien, on va poursuivre notre cheminement sur la manifestation de Dieu avec ce cours aujourd'hui consacré à l'incarnation et Dieu envoya son Fils. Donc, on va poursuivre, hein, on est toujours sur... sur cette manifestation, cette révélation où le moment est venu où Dieu décide d'incarner le Fils et d'être lui-même parmi les hommes et d'incarner, de s'incarner dans cette parole déjà prononcée et adressée dans l'Ancien Testament, cette parole de Dieu qui va se faire chair. C'est la promesse de Dieu de l'Ancien Testament qui va devenir salut en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et donc Dieu va se révéler en personne, en son Fils. Donc souvenez-vous, on ne sépare pas l'Ancien du Nouveau Testament et on est toujours dans l'idée d'une continuité de la révélation. Et que l'on arrive à ce moment, on va dire peut-être opportun, où Dieu décide de se révéler autrement. Donc on avait lu lors d'un cours précédent les premiers mots de la constitution dogmatique Dei Verbum. Vous vous souvenez, il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. Souvenez, on avait souligné le fait qu'il y a en Dieu du plaisir, que c'est sa volonté, qu'il y a de la sagesse, de la bonté, et qu'il veut nous instruire de sa volonté de se révéler, et sa volonté demeure, malgré cette instruction, entre guillemets, demeure un mystère. Donc je vous parlais du temps opportun, oui, les temps sont venus où Dieu... Eh bien, la Constitution nous parle même de plénitude des temps. Quand la plénitude des temps fut venue, il décida d'envoyer son Fils, son unique, son Logos, le Verbe fait chair. Donc, quand on parle de Logos, du Verbe fait chair, on ne peut pas ne pas faire référence au prologue de Jean. Donc, pour commencer ce cours, eh bien, on va précisément commencer par le prologue de Saint Jean. Alors on date, d'abord quelques mots quand même pour honorer l'évangéliste, on date la rédaction de l'évangile de Jean dans les années 90, donc la dernière rédaction d'un récit évangélique, mais dans cet évangile il y a eu des ajouts, des additions. Et donc, les exégètes ont pu dater que les additions à cet évangile se sont poursuivies jusque dans les années 100, 110 à peu près. Ce qu'on peut dire, c'est que la tradition attribue à l'évangéliste Jean cette identité d'être le fils de Zébédée. Donc, il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, mais Jean, fils de Zébédée. Il fait donc partie des 12. Et en plus, l'évangile identifie ce Jean comme étant le disciple bien-aimé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la tradition johannique l'identifie comme tel. Jean, fils de Zébédée, disciple de Jésus, disciple bien-aimé de Jésus. Alors une fois qu'on a dit ça, on regarde un petit peu le genre littéraire de ce prologue. C'est donc un hymne qui est formulé de manière poétique. Et on pourrait dire que c'est même une des caractéristiques de cet évangile. Jean utilise un vocabulaire très simple Et pourtant, l'agencement de ce vocabulaire fait que la lecture de cet évangile est parfois difficile, un peu compliquée. On a l'impression de lire, certains diraient, quelque chose d'un texte un peu agnostique, hein, d'une certaine façon. Mais il n'empêche que dans ce prologue, il y a un rythme particulier qui va donner aux paroles de ce prologue une force et en même temps la possibilité d'y interpréter une sorte de mystère, en fait. Parce que précisément, il y a un agencement particulier. Alors on va lire ce prologue, donc c'est notre point 1. Et le verbe s'est fait chair, et ce point commence avec le texte de Jean 1, versets 1 à 15. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi, il était. » C'est un très beau texte, sans contexte, vraiment. Tout l'agencement du vocabulaire et des phrases rend ce texte vraiment très beau et on a pu constater que le vocabulaire n'était pas... Il n'y avait rien de compliqué dans ce vocabulaire-là. Alors, pour honorer ce texte, on pourrait regarder d'un peu plus près, je ne vais pas faire l'exégèse de ce texte-là, mais il y a quand même quelques éléments qu'on pourrait pointer. D'abord, dans ce texte-là, on pourrait voir ce qu'on appelle une inclusion ou un encadrement, en tout cas, quelque chose qui encadre le texte. C'est d'abord au verset 1, au commencement était le Verbe, et qu'on peut mettre en écho avec le dernier verset, au verset 15, les trois derniers mots, et particulièrement le terme avant. Donc, au commencement était le Verbe, et avant moi, puisque c'est le narrateur qui parle, avant il était. Donc, il y a bien l'idée qu'au commencement, que l'on peut associer à la lumière, eh bien, on est là dans une référence à la création. Dès le commencement, Dieu était, et dès avant la création, Dieu était, et l'Esprit était. On nous dit ensuite, Jean nous dit, le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. On peut mettre ce verset en parallèle avec le verset 14, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Donc ce Verbe qui était vers Dieu, qui était tourné vers Dieu et qui était Dieu, est devenu chair par la volonté de Dieu lui-même. La suite de ce verset parle de la gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Donc tout ce que le Fils est, il le tient du Père. Il n'est pas autre chose dans le monde que le Père, que la présence du Père dans le monde. Donc entre ces deux encadrés, au commencement était le Verbe et avant moi il l'était, eh bien nous avons l'apparition d'un Jean qui parfois nous trouble un petit peu, mais il s'agit de Jean-Baptiste et non pas Jean fils de Zébédée. Jean-Baptiste est le témoin. Il est celui qui a la mission de rendre témoignage de la venue du Fils de Dieu dans le monde. Et il précise bien au verset 9, c'est le Verbe qui était la vraie lumière et qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. C'est important parce que ce que nous dit Jean-Baptiste, enfin ce que nous dit le narrateur à propos de la fonction de Jean-Baptiste, c'est que le Verbe illumine le monde, mais ne se mélange pas avec le monde. Il entre dans le monde, mais il n'est pas du monde.
Madame,
oui ?
Je vais avoir une question qui, à mon avis, est le béaba chez les chrétiens. Pourquoi le Verbe ?
Le Verbe, en raison de la parole. D'accord. La parole de Dieu.
Ah, d'accord, ok,
voilà.
Dans ce sens,
c'est ça.
Très bien, merci.
Et la parole, c'est le Verbe en grec, c'est logos. Voilà,
merci.
C'est pour ça.
Merci.
Oui, mais c'est vrai que ça peut être troublant. Vous avez raison, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc en Jésus-Christ, le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est Dieu, s'incarne en son Fils, qui est de Dieu et non pas du monde. Donc le Verbe que vous avez mis comme ça en exergue, va revêtir le double caractère à la fois de dévoiler, c'est-à-dire la dimension de dévoilement, puisque Dieu se dévoile par l'incarnation du Verbe, et en même temps il y a du cacher, une dimension de mystère, puisque nous ne pouvons pas accéder à la volonté de Dieu, et que l'incarnation, tout comme la résurrection, sont deux événements sans témoin. Il n'y a pas de témoin de l'incarnation, ni de témoin de la résurrection. D'où toujours cette articulation que nous devons tenir entre le dévoilement concédé par Dieu et le voilement.
L'incarnation, c'est pas le petit Jésus qui arrive à Noël ? On est
c'est...
témoin alors.
Oui, mais vous n'êtes pas témoin du moment où Dieu décide l'incarnation. Voilà. Et même de ce moment-là, de cette mise au monde, on va dire, il y a ceux qui viennent honorer ce petit enfant, mais de la naissance de ce petit enfant, à part Joseph, qui ne témoignera pas, on n'a rien, on n'a pas de témoignage, de, voilà. On relate la naissance de Jésus sans un témoignage direct. Voilà. Il y avait une autre question.
Et pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'incarnation et la résurrection soient sans témoin ?
Alors là, je dirais qu'il faudrait poser la question à Dieu lui-même. Parce que vous voyez... Non, mais c'est vrai, parce que c'est, votre question, elle est légitime, madame. Le problème, c'est que on, et c'est là la dimension de mystère ou de cachet, c'est qu'on ne peut pas pénétrer la volonté de Dieu. Et que la dimension de mystère, c'est jamais ce qui est mystérieux ou ce qui est caché volontairement. Mais c'est de se dire qu'il y a en l'homme, enfin quand je dis en l'homme, c'est en la femme aussi, c'est-à-dire en l'humanité, un empêchement, je dirais, en raison de la nature humaine, un empêchement d'atteindre la logique de Dieu et de comprendre ce qu'est la logique de Dieu. C'est dans ce sens-là que ma réponse est, ben en fait, je ne sais pas répondre à cette question-là. Seul
sûre.
Dieu peut y répondre.
En fait, j'en étais sûre, c'est pour ça que je
voulais... Mais oui, mais vous avez... Mais oui, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais on voit bien que vos questions, elles rajoutent à la... Enfin, en tout cas, elles viennent justifier la difficulté que nous avons aussi à entrer dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on est toujours en friction avec notre logique intellectuelle et humaine, et puis quelque chose qui est totalement en dehors du quotidien et de la logique. Voilà, ça nous demande de faire un pas de côté qui est celui de la foi pour essayer en tout cas d'atteindre une logique, la logique de Dieu. Bon, en fait, la question c'est, y a-t-il une logique en Dieu ? Dieu détermine-t-il son action par la logique, par ce concept-là ? Je ne suis pas sûre. C'est plutôt nous qui avons besoin, toujours, de comprendre les choses et les événements à partir d'un déroulement. Et la preuve, c'est que même le prologue de Jean commence par, précisément, le commencement. C'est-à-dire, il faut partir, on a besoin d'un point de départ. Sauf qu'en Dieu, ce point de départ, nous n'en avons pas la... Nous n'avons pas le début du commencement de sa volonté. Nous savons que ce qui motive Dieu, c'est d'abord l'amour qu'il a pour sa création et ses créatures, et c'est l'amour qu'il a pour les hommes et le fait qu'il veuille les sauver. C'est la seule chose que nous savons. Après, la théologie, elle va faire monter la mayonnaise, si je puis dire. Hein. Elle va conceptualiser, elle va essayer d'élaborer un discours qui va intégrer tout cela. Mais on voit bien que pénétrer la volonté de Dieu, ça nous est absolument impossible parce que ce n'est pas dans notre logique même de raisonnement pur, en fait. Donc on est obligé de faire avec cette dimension de mystère. Mais finalement, ça nous oblige à un peu d'humilité, c'est-à-dire à accepter que l'on n'est pas obligé de tout comprendre. Voilà, y compris ici et dans ce cours. Hein.
C'est ce qui est dit à Job.
Par exemple, oui. Mais voyez, on n'est pas obligé toujours de tout comprendre, de tout maîtriser. Voilà, c'est peut-être ça que nous enseignent aussi les Écritures, hein, d'accueillir tout simplement. Donc le prologue de Jean va débuter sur l'action divine, une action divine qui est fondatrice, c'est celle de l'incarnation du Verbe fait chair. Et il va donner à ce commencement un mouvement. Ça va être, verset 1, le Verbe était Dieu, ensuite Dieu devint chair, et ensuite au verset 14, il a habité parmi nous. C'est ce que prend comme chemin ce mouvement-là. Que le Verbe est la lumière et que c'est la vraie lumière, et qu'en étant la vraie lumière, il illumine le monde. Et qu'il illumine en venant dans le monde, mais sans s'y mélanger.
Et lumière, qu'est-ce que ça veut dire à peu près ?
Alors le terme de lumière ici, on pourrait le rapprocher, vous savez, de Genèse. Genèse 1 sur la création, où on sépara les lumières des ténèbres. Et on voit bien que là, dans le prologue, si on regarde bien le prologue, à un moment donné, voilà, il nous dit... Il est dit, au verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Par exemple, Jésus n'a pas été reçu comme il se devait, on va dire, d'une certaine façon. Il était le verbe que l'on a crucifié. Et précisément, à la croix, la parole se tait. Il n'y a plus de parole à la croix. Donc l'incarnation du Fils uni au Père, est le non créé, engendré et non pas créé. Donc il ne peut pas se mélanger au monde. Il ne fait pas partie des créatures du monde créées par Dieu. Dieu engendre le Fils, il ne le crée pas. On pourrait comprendre alors qu'il y a une sorte d'extériorisation de Dieu. C'est notre point 1-1. Le logos comme acte d'extériorisation. Et cet acte d'extériorisation, eh bien, on pourrait le comprendre après ça, à partir de sa communication, de sa manifestation. Le fait qu'il veuille se communiquer et se manifester aux hommes, c'est déjà en lui un acte, il sort, c'est une sortie de lui-même, déjà. Donc Dieu se manifeste, et en se manifestant, il va s'extérioriser dans le monde. Mais dans un but bien précis, c'est celui de sauver tous les hommes. Mais si je reviens à cette idée d'extériorisation, eh bien on pourrait dire que tous les événements de l'histoire du salut vont trouver leur sens dans cet acte-là. À chaque fois que Dieu agit pour sauver le peuple hébreu de ses pérégrinations ou de son exil, Dieu s'extériorise de lui-même. Et l'incarnation, on pourrait dire qu'en quelque sorte, c'est l'extériorisation par excellence. Le Verbe a habité parmi nous. Dieu se donne en personne. Tout à l'heure, madame, vous parliez du terme verbe, et je vous disais c'était le logos. Vous voyez, ce terme-là, il a posé des difficultés dans les premières années du christianisme, par exemple. Parce que ce terme logos, c'est du grec. Et donc le logos a une signification en grec qui peut être multiple. Donc l'enjeu des premiers chrétiens, et on va dire des premiers apologètes, qui étaient les premiers théologiens, sera été de christianiser ce terme-là. Comment on va l'intégrer dans le discours chrétien? Parce que le terme de logos, il a plusieurs interprétations. C'est bien sûr le verbe, mais ça peut être la parole, ça peut être le discours, ça peut être le fait de raconter, de dire, de parler. Là, on est plus sur le verbe legein. Mais les premiers apologètes, on va en parler, ce sera Origène et Eusèbe de Césarée, je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure, enfin à l'instant, c'est précisément que pour sortir le terme de logos d'une compréhension grecque, ça va être de partir du grec, mais de transformer cela en langage chrétien, et ce ne sera plus le logos tout seul, mais ça va être théos legon, Théos, Dieu, legon, de legein, du verbe legein, parler. Donc Dieu parle, Théos, legon, un Dieu qui parle. Et à partir de cette traduction-là, on va pouvoir comprendre le mot verbe ou le même logos chez Jean comme étant un Dieu qui parle, qui s'adresse à l'autre, qui s'adresse à l'homme. Et du coup, cette difficulté aura été surmontée. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler du logos sans que ça nous pose difficulté, d'autant plus qu'on a très largement perdu la culture grecque, en tout cas, et le réflexe des significations du vocabulaire grec, qui ce n'est plus trop notre culture en fait. Et donc je vous parlais d'Origène qui est né en 185 et qui est mort en 253 ou 254, c'est pas toujours facile de dater les dates de mort. Eusèbe de Césarée, donc là on est au 3e siècle, 265-339. Et donc, dans leurs discours, et principalement dans leurs homélies, eh bien ils ont contribué à christianiser les termes grecs. Et donc, ils ont utiliser le terme de théos legon, de Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Et donc, grâce à eux, on va dire l'orthodoxie du vocabulaire, eh bien, a été maintenue, a été marquée. Et donc, du coup, la différence avec la mythologie grecque a été totalement marquée. Il y a une séparation et il n'y avait plus de confusion possible.
Quoi et quoi
entre le logos grec qui signifiait à la fois parler, raconter, et le théos legon, ou c'est du grec, avec la traduction « un dieu qui parle ». C'est plus simplement le verbe, vous voyez, le verbe en tant que parole. Cette parole, elle est identifiée à Dieu. C'est l'identification de la parole. Qu'Origène et Eusèbe de Césarée ont pu traduire et identifier comme un Dieu qui parle. Il y a une personnification de la parole. C'est pour ça que lorsque nous parlons aujourd'hui du Verbe de Dieu, on doit avoir en tête le Fils. Jésus-Christ, la personnification du Verbe. C'est important parce que ce passage de la dimension grecque, voire mythologique, à une compréhension chrétienne, nous montre qu'il y a eu un processus d'appropriation. Ça ne s'est pas fait... Ça ne s'est pas fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il a fallu s'approprier un vocabulaire et le transformer de manière à ce qu'il puisse être compris et audible. Et on pourrait dire que c'est tout l'enjeu du discours théologique, d'où la difficulté, parfois, c'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire qui puisse être compris par tous. C'est compliqué, ça demande de faire... des fois trois pas de côté pour essayer de simplifier. Simplifier ne veut pas dire un discours simpliste, ça veut dire comment on va pouvoir avoir un accès, non pas facile mais correct, de quelque chose qui n'est pas d'emblée compréhensible par notre raison raisonnante, vous voyez, ou notre logique. C'est toute une difficulté. C'est la difficulté qu'ont rencontré les premiers pères de l'Église. Ils ne s'adressaient plus qu'à des Grecs. Ils s'adressaient à des chrétiens. Paul s'adressait à des Romains, vous voyez bien. Donc il fallait bien que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agissait. Donc c'est pourquoi ce processus d'appropriation, il faut le prendre en compte. Il est important. Parce que ça a permis... à la théologie de s'organiser à partir de ce terme-là de logos. Vous voyez ? De logos comme Dieu qui parle. Si on veut discourir sur Dieu qui parle, on fait de la théologie, parce que la théologie, c'est le discours sur Dieu. Alors, je regarde un peu ce que je ne vous ai pas déjà dit. Ensuite, il y a l'idée, là je regarde un petit peu le verset, enfin non pas le prologue, mais l'importance du témoignage. L'importance du témoignage, c'est-à-dire que Jean s'identifie et il dit sa fonction. Sa fonction est de rendre témoignage à la vraie lumière parce que lui-même n'est pas la vraie lumière. Donc Jean-Baptiste n'est pas la vraie lumière. Il est, pour ainsi dire, le dernier prophète. Jean donne témoignage dans les paroles de Jésus au chapitre 17, au verset 5, par exemple. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le retour toujours au commencement, vous voyez. Chapitre 17, donc chez Jean, verset 5. Donc autrement dit, le logos fait partie de la révélation et ce qui arrive en tant qu'événement d'incarnation, eh bien, va trouver son origine dans la création. C'est-à-dire dès avant la création. Et tout cela va s'accomplir en Jésus-Christ. L'accomplissement de la révélation, elle va se réaliser en Jésus-Christ lui-même.
S'il vous plaît.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le Christ est donc la vraie lumière ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, on peut le lire dans le prologue.
Il y a quoi ?
Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Le verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, donc il s'agit bien de Jean-Baptiste. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Et donc il dit, il n'était pas la lumière, donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et donc le verset 9, le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde, illumine tout homme. Oui, Jean-Baptiste n'est pas la vraie lumière. Donc il y a là, avec l'incarnation, un événement dans l'histoire de la révélation. Donc l'événement au cœur de l'histoire de la révélation. Et du coup, l'histoire, on va dire l'histoire des hommes, va trouver son sens dans cet événement-là. Est-ce que ça va? Vous êtes studieux. Donc nous devons comprendre, bon, si c'était un peu compliqué, que c'est dans le Verbe lui-même que s'accomplit l'incarnation. Dès l'instant où on dit le Verbe s'est fait chair, on comprend le moment même de l'incarnation, ce qu'il s'est produit. La parole de Dieu est devenue homme. Parmi les hommes, elle a habité parmi nous. Mais ça ne se résume pas à « est devenu homme », puisqu'étant de Dieu, Jésus est aussi de nature divine. Alors bon, voilà. C'est un peu, voilà, voyez bien, à chaque fois qu'on fait un pas, on est face à une difficulté. Hein. En tout cas, l'acte divin, parce que l'incarnation, c'est un acte divin. C'est un acte divin de révélation, où Dieu va décider de se révéler lui-même. En son Fils, donc le Fils, est dès l'origine, en tout cas c'est ce que nous devons comprendre, il est dès l'origine auprès du Père. Il n'est pas à côté, quelque part, ou un satellite du Père, que le Fils révèle le Père et qu'il ne révèle pas autre chose que le Père, et que le Fils, chez Jean, et principalement dans l'évangile de Jean, c'est que le Fils est appelé à revenir vers le Père. Si vous lisez l'évangile de Jean, il y a un refrain, une récurrence qui revient très souvent. C'est le « je vais au Père », c'est le retour du Fils vers le Père. Donc dès le commencement, le Fils est appelé à retourner vers le Père. Il n'est pas appelé à demeurer dans le monde, parce qu'il n'est pas du monde. Il y a ainsi un mouvement descendant et un mouvement remontant. Alors regardons le point suivant, le point 1-2, les raisons de l'incarnation, même si j'en ai déjà dit.
Excusez-moi, je suis un petit peu gênée par.
Dites-moi.
Le salut des hommes.
L'enregistreur. Jésus, il est venu amener au monde, ou dans le monde, la figure d'une humanité pour les hommes. Il leur fait découvrir ce que doit être l'humanité et ce que doit être un homme en humanité. C'est pour ça qu'il y a une dimension éthique dans l'incarnation.
Excusez-moi.
Oui ? Donc on arrive à notre point suivant, les raisons de l'incarnation, c'est le point 1-2. Et donc je vous parlais d'Origène et de Zèbre de Césarée et donc d'autres pères de l'Église par leurs nombreux écrits et leurs nombreuses homélies. Eh bien, ont élaboré, souvent sans le savoir, c'était des théologiens qui s'ignoraient, ont élaboré une argumentation théologique sur les raisons de l'incarnation. Parce que même si on n'a pas été témoin de l'incarnation, il n'empêche que rien n'empêche de réfléchir et de penser ces raisons-là. Donc la raison principale, et vous l'avez compris parce que certains en ont parlé, c'est principalement les raisons sotériologiques, c'est-à-dire les raisons du salut sotériologique, hein, ce qui vient du verbe grec soter, S-O accent circonflexe, T-E-R, et ce terme-là signifie sauveur. Donc les raisons de l'incarnation, c'est le salut de Dieu à destination des hommes. Et donc les pères ont pensé dans cette dimension de salut, cette notion du salut, qu'il y avait comme un échange entre le Fils de Dieu et les hommes. Et que la finalité de cet échange, et j'ai mis des guillemets, hein, vous pensez à cet échange, j'ai mis des guillemets, la finalité de cet échange en vue du salut, c'était la filiation adoptive, faire des hommes et des femmes, des filles et des fils de Dieu, une filiation adoptive. Voilà, c'est le texte 2, voilà ce que saint Irénée écrit. Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne Fils de Dieu. Une des raisons, voilà, que nous soyons affiliés à Dieu. Ensuite, on peut lire un petit peu plus loin, enfin c'est au chapitre 5 de la préface, toujours chez Irénée de Lyon, « Le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. » Voilà. S'est fait cela même que nous sommes, c'est-à-dire il s'est fait homme, afin que nous, hommes, nous soyons faits ce qu'il est.
Soyons Dieu.
Voilà. Voilà, c'est cela. C'est exactement cela. Et saint Augustin, on pourra dire, va un petit peu resserrer tout cela, toujours dans un sermon. Hein, sermon et homélie étaient les théologies de l'époque. Dieu veut te faire Dieu. Non par nature comme est celui qui l'a engendré, mais par don et par adoption. De même que par l'humanité il est devenu participant de ta mortalité, ainsi par l'élévation il t'a rendu participant de son immortalité. Un échange, voilà. Nous participons à la nature divine. Et en participant à la nature divine de Dieu, nous participons à l'immortalité. Et comme l'immortalité de Jésus, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, est passée par sa résurrection, eh bien, nous sommes nous-mêmes appelés à cette résurrection de la chair dont vous parliez, madame, tout à l'heure, à cette résurrection à venir. Donc, les raisons de l'incarnation, ou on peut dire l'intentionnalité divine, au départ, c'est la filiation adoptive. C'est pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de Dieu. Pour que l'homme devienne fils de Dieu. Alors, peut-être que Dieu là devienne Dieu, là je vous entends, peut-être que c'est peut-être qu'on pourrait peut-être changer par « Dieu veut te faire Dieu ». Parce que l'homme devienne Dieu, c'est pas... Vous voyez, ça me fait penser calife à la place du calife. C'est plutôt l'idée, et c'est pour ça que les mots nous piègent, c'est plutôt l'idée, c'est d'abord de la volonté de Dieu de faire que l'homme devienne... par filiation adoptive deviennent Dieu. Mais vous voyez, il y a tout un cheminement. Mais je pense que c'est comme ça que vous l'avez tout à fait compris. train de regarder, que je ne vous répète pas des choses que je vous ai déjà dites. Donc on pourrait dire que pour le Fils, ce qui préside à son à sa vie entière, eh bien c'est le salut. C'est les raisons de l'incarnation. C'est les raisons de sa mission. C'est les raisons qui vont le faire mener sa vie, en tout cas mener la vie qu'il a vécue en tant qu'homme et en tant que fils de Dieu. C'est le salut. Toute sa vie est motivée par cette mission. Cela veut dire que le salut est constituant de sa vie, est constituant du Christ. On ne peut pas séparer la personne de Jésus de la mission qu'il a à accomplir.
C'est son nom qui veut dire ça.
Dieu sauve.
Oui, Dieu sauve, oui. Oui, tout à fait. Le Christ est pour le salut. Et du coup, ça nous renvoie à la double nature du Christ, à sa nature humaine et à sa nature divine. Il ne peut sauver les hommes que s'il assume lui-même pleinement la nature humaine. S'il veut sauver le monde de la mort au péché, il doit passer lui-même par la mort, même s'il est celui qui est l'innocent, celui qui est sans péché. Donc la constitution du Christ est relative à sa mission et à son œuvre. Il n'y a pas de séparation entre le Christ, son œuvre, entre le Christ et sa mission. Et donc l'accomplissement plein et entier de l'incarnation, il se comprend à partir du mystère pascal. Et il s'accomplit même dans le mystère pascal. C'est l'événement de sa mort et de sa résurrection qui vont révéler sa nature divine, la nature de sa personne. Alors, je vais finir ce point. Il y a un autre père de l'Église, un peu plus tard, dans le IVe siècle, Grégoire de Nazianze, avec deux Z, Nazianze, N-A-Z-I-A-N-Z-E. Donc, c'est 329-390. Alors, Grégoire de Nazianze affirme, et là je mets les guillemets, que la constitution du Christ comme vraiment Dieu et pleinement homme apparaît comme une condition nécessaire du salut de l'homme. Sa double nature et sa nature humaine est une des conditions du salut de l'homme. Sinon, Jésus n'aurait pu sauver les hommes et nous n'aurions pu avoir accès à son œuvre. Voilà, il est 15h, on peut peut-être, si vous voulez, faire une pause.
Il y a quand même une dimension de l'humain.
Alors, après la pause que nous venons de faire, on arrive à notre point 2, le Fils de Dieu, fait homme. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, Fils de Dieu, on l'a dit juste avant la pause, ne peut pas être séparée de sa personne parce qu'il y a un lien intime entre sa personne et sa mission. Il est lui-même la mission. Souvenez, un jour, je vous avais dit, Jésus est le message et il est en même temps le contenu du message. Donc la personne du Christ est unie dans cette double nature divine et humaine. Et le Concile de Chalcédoine a affirmé en son temps, en 451, que ces deux natures ne se confondent pas, qu'elles ne changent pas, qu'elles ne se divisent pas et qu'elles ne se séparent pas. Donc l'enjeu de cette affirmation, c'est précisément de confesser que Jésus-Christ est vraiment homme et vraiment Dieu. Que sa nature humaine ne va pas diminuer ou amoindrir sa nature divine. Et que la nature divine ne va pas absorber sa nature humaine. Donc l'enjeu, vous voyez bien, de cette affirmation, donc pas de changement, pas de division, pas de séparation et pas de confusion, permettent de maintenir à la fois les réalités humaines que Jésus-Christ, Fils de Dieu, assume, parce qu'il les assume pleinement, et en même temps, de tenir les réalités divines qu'il accomplit et qui s'accomplissent en sa personne. C'est pour cela que nous confessons Jésus-Christ, une personne de nature. Alors, je pense que vous devez avoir le texte 3 qui est la formulation de Chalcédoine. Vous pourrez aller lire cette formulation-là. Enfin, le texte est vraiment avec un refrain, hein, le même, qui revient de manière récurrente. Donc, en fait, l'affirmation chalcédonienne, elle va insister sur l'action divine et sur la médiation. On parlait de médiation tout à l'heure, sur la médiation du Fils et sur l'achèvement de la révélation, parce que c'est en le Fils et c'est par le Fils que la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament s'accomplit et se réalise pleinement. Voilà ce que nous dit la constitution dogmatique Dei Verbum dans ce paragraphe 4 qui est le Christ, plénitude personnelle de la révélation. C'est le texte 4. Jésus-Christ, donc, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donné à faire. C'est donc lui, le voir, c'est voir le Père, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en l'accomplissant la révélation et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc, il y a union des doubles natures en la seule personne de Jésus, ce que réaffirme ce passage-là, ce paragraphe-là, et que dans le Christ, on peut voir qu'il y a une sorte de synthèse de Dieu et de l'homme. Alors, je ne sais pas si le mot synthèse est tout à fait approprié, mais en tout cas, il y a, ça rejoint l'idée d'adoption, de filiation adoptive par le Christ en raison même de sa nature humaine. Et on en vient à la dimension de médiation que vous aviez soulevée tout à l'heure. Mais effectivement, celui qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jean. Donc Jean est l'évangéliste qui va insister à la fois sur le retour du Fils vers le Père et sur le Fils comme médiateur du Père. Et c'est notre point suivant, 2.1, Jésus-Christ, Fils et médiateur du Père. Et donc, bon, du coup, je vais un petit peu me répéter, je m'en excuse, mais le Fils est celui par qui l'homme accède au Père. Sans le Fils, nous n'accédons pas au Père, nous n'accédons pas à Dieu. Lui seul nous permet d'aller vers le Père. Et cette médiation, on peut dire qu'elle est voulue par Dieu lui-même. Elle est déjà dans l'acte d'incarnation. En incarnant le Fils, Dieu pose dans le monde au milieu des hommes une médiation, un chemin. Souvenez-vous, chez Jean, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vigne ». Un chemin. Le « je suis », on l'avait vu avec le « ego imi », c'est la médiation par excellence. Et donc, dans cette médiation par le Fils, eh bien, nous découvrons la médiation en tant que telle, hein, nous fait découvrir que Dieu est bon. Jésus a passé en faisant le bien, parce qu'il est lui-même le bien et le bon. Et qu'il est le souverain bien. Et qu'en se manifestant, il va susciter l'amour. Lui-même est amour. Donc il suscite l'amour. Alors saint Thomas d'Aquin a parlé, lui, d'œuvre d'incarnation. Donc c'est notre texte 5 dans la Somme théologique, c'est la tierce part, donc c'est la question 1 et l'article 5, intitulé, c'est toujours des questions hein, chez saint Thomas, « Aurait-il convenu que Dieu s'incarne dès le commencement du monde ?» Si vous lisez saint Thomas, vous allez y lire toutes les questions que vous vous posez en fait. C'est vrai. Voilà, c'est une question qu'on aurait pu se poser. On ne l'aurait peut-être pas formulée comme ça, mais aurait-il convenu que Dieu s'incarne dès le commencement du monde ? Voilà. Alors que nous dit saint Thomas ? Bien, il nous dit que l'œuvre de l'incarnation provient de l'immense amour de Dieu, selon saint Paul, et donc il nous cite saint Paul, Dieu, dans la richesse de sa miséricorde, est poussé par le grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a rendu la vie avec le Christ. Mais l'amour se porte sans retard au secours de l'ami dans le besoin. Il est écrit en effet, et là il nous cite le proverbe, au chapitre 3, « Ne dis pas à ton ami, va-t'en, repasse, je te donnerai demain ». Quand tu peux donner sur l'heure. Il semble donc que Dieu ne devait pas retarder l'œuvre de l'incarnation, mais venir dès le début au secours du genre humain par l'incarnation. Voyez ? Alors on pourrait faire un raccourci et penser, par exemple, que l'incarnation était déjà inscrite dès le commencement. Ça nous laisserait penser cela. Bon, moi je ne vais pas aller jusque-là parce qu'en fait je n'en sais rien pour tout dire. On peut l'imaginer. En
mais
tout cas.
Ce qu'on peut dire, c'est que le mal n'était pas inscrit.
Non, ça c'est certain. C'est certain, ça bien entendu. Après, ce que l'on peut dire par rapport à l'incarnation, c'est que l'incarnation va entrer dans l'économie de la révélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la révélation de Dieu et puis ensuite l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu continue de se révéler dans l'incarnation et par l'incarnation. C'est pourquoi elle fait partie intégrante de la révélation. Vous voyez ? Parce que c'est par l'incarnation que Dieu continue de se manifester aux hommes. Mais comme nous dit la constitution dogmatique, à un moment... Autant à un moment où le moment opportun, c'est-à-dire au moment où lorsque les temps furent venus, eh bien Dieu décide de se manifester autrement que par sa parole. Donc si on fait un raccourci, mais cette fois-ci que l'on peut précisément accepter, c'est de dire en fait, c'est l'amour de Dieu qui s'incarne, c'est pas que l'homme Jésus de nature humaine. C'est l'amour total de Dieu pleinement qui s'incarne. C'est sa parole, mais comme sa parole est amour, on est en droit, on peut faire ce raccourci en disant c'est l'amour de Dieu qui s'incarne et qui fait découvrir à l'homme un amour qu'il ne connaissait pas, un amour inconnu jusque-là. La manière... de vivre de Jésus, en tout cas sa vie, montre à ses disciples que cet homme-là ne vit pas comme les autres, qu'il est singulier dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'enseigner. Il y a une singularité en Jésus qui déjà le fait considérer comme quelqu'un d'à part. Et la grande miséricorde qui agit et qui est Jésus lui-même pose déjà au milieu des disciples cette dimension éthique, je ne dis pas morale, parce que l'évangile n'est pas le lieu où on va chercher des codes moraux, mais la dimension éthique du bien, de faire le bien, de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à notre tour, vous voyez, cette dimension-là. Et même la dimension de renvoyer à l'autre sa propre capacité d'être sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. C'est quelque chose quand même. Lorsque la femme hémorroïse dit « Si je touche à peine les franges de son manteau, je serai sauvée », et que Jésus sent une force en lui qui s'en va, eh bien, il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est l'humilité de Jésus de renvoyer à l'autre sa capacité d'être sauvé par la foi. L'autre ne s'est pas sauvé tout seul, la femme ne s'est pas sauvée toute seule, mais la foi qu'elle éprouve en Jésus, en se disant « Même si je touche que la frange de son manteau, je suis sauvée », c'est déjà, vous voyez, enfin, de renvoyer à l'autre. Tu es capable de te sauver aussi si tu as la foi, mais pas avec la force de tes petits bras. Voilà, c'est ça en fait, enfin, que je comprends.
Alors, pour le péché, la notion...
La mort de Jésus, pour reprendre le fil un petit peu, ne vient pas nous enfermer dans le péché. La mort de Jésus par sa résurrection vient nous libérer de la mort et du péché. Mais ça, dans nos vies, ça ne nous empêche pas de prendre parfois de mauvaises décisions. Le pardon et la miséricorde de Dieu que nous trouvons dans le sacrement de réconciliation est le sacrement par lequel nous allons renouer le lien avec Dieu. Ça peut être par le sacrement, mais ça peut être aussi dans renouer le dialogue intérieur avec Dieu, dans ce pardon que l'on demande en conscience et en cœur à cœur avec Dieu. Mais voilà, on n'oublie jamais la miséricorde de Dieu et cet amour qui fait que l'enseignement même de Jésus va mettre l'homme qui l'écoute à l'école de Dieu, donc à cette école d'amour. Et du coup, l'homme va pouvoir découvrir qu'il y a une alternative dans sa vie, voilà, qu'il a un destin qui est le destin en Dieu, qui n'est pas un destin voué uniquement au néant, en fait. C'est pas la mort du néant. On a un avenir en Dieu, par le Christ. Mais c'est aussi dans l'Ancien Testament que ça a été compris autrement. Mais le peuple de l'Ancien Testament a fait l'expérience lui-même du salut de Dieu. La reconstruction du temple après l'exil, par exemple. Le peuple d'Israël a fait bien des fois l'expérience que Dieu l'avait sauvé à maintes fois. La manne dans le désert.
Le psaume 50, c'est pas le psaume de David ?
Mais oui, ce sont les psaumes de David. Mais dans le psaume 50...
C'est pas qu'il a été pardonné. Parce que la faute, c'est
celle devant moi. Je sais pas, attendez.
Ah
bah
si.
Voilà, je reprends le fil après vos questions, hein, mais que j'accueille bien volontiers. Bien volontiers. La voie de médiation que le Christ nous montre, c'est la voie du bien entendu, et du salut. Et d'une certaine façon, puisque vous m'avez posé la question sur l'Ancien Testament, l'élection dans l'Ancien Testament et le Christ dans le Nouveau Testament, eh bien, nous montre qu'il est possible d'avoir et de choisir une existence nouvelle, parce que l'existence en Christ est une existence nouvelle. Et on peut comprendre l'incarnation comme le moment à partir duquel nous pouvons repartir pour comprendre cet amour et cette miséricorde. Parce que l'incarnation du Fils, elle va se traduire à la fin de sa vie terrestre par la mort sur la croix. Donc on a là à la fois une dynamique d'amour, une action d'amour dans l'incarnation, et non pas une action d'amour dans la croix, parce que dans la croix il n'y a que la mort, mais une action d'amour dans la résurrection, comme réponse à la condamnation humaine, puisque la crucifixion est bien une condamnation humaine. Et pour comprendre cela, je vous ai choisi ce texte de Karl Barth, toujours notre théologien protestant, dans sa grande œuvre qui est une dogmatique, qui s'appelle la dogmatique, c'est dogmatique 4, voilà ce texte-là qui est un petit peu long, mais qui est un très beau texte, un texte théologique, qui dit que Dieu, en tant que Dieu, précisément, soit capable de s'abaisser aussi lui-même, qu'il soit disposé à le faire de bon gré, tel est, sous cette forme concrète souvent méconnue, le mystère de la divinité du Christ. La divinité du Christ n'est nullement celle d'un être divin doté de n'importe quel attribut suprême. On a rendu inutilement difficile, ou parfois trop facile, cette proposition christologique essentielle en la condamnant souvent à rester stérile. Parce qu'on est passé à côté de sa signification concrète, c'est-à-dire parce qu'on a négligé de chercher le contenu de la notion de divinité dans le Nouveau Testament, étroitement lié à l'Ancien, et par conséquent en Jésus-Christ lui-même. Pour définir la divinité de Jésus-Christ, on n'a pas le droit de recourir à l'idée générale d'un être suprême absolu, sans rapport avec le monde. Non, il s'agit simplement de se mettre à l'école du Christ et de fixer son attention sur ce qui s'est passé en lui. Autrement, le mystère que constitue sa divinité serait un mystère arbitrairement conçu, imaginaire, inauthentique. Il ne serait justement pas le mystère que nous présente la parole et la révélation de Dieu, telles qu'elles sont attestées par la Bible. Pour savoir qui est le vrai Dieu et ce qu'il est, c'est-à-dire quelle est la nature divine qui est aussi celle de Jésus-Christ, s'il est vrai Dieu, nous n'avons qu'une seule possibilité, partir du fait que Jésus-Christ est également vrai homme et qu'il participe ainsi à la nature humaine. Autrement dit, nous avons à déduire sa divinité de son humanité, de son incarnation, de ce qu'il a souffert dans la chair en tant qu'homme, car, disons-le carrément, le miroir dans lequel on peut reconnaître et où l'on reconnaît en fait qu'il est Dieu, et aussi d'essence divine, c'est son incarnation, c'est son existence dans la chair. Vous voyez, ce texte-là de Karl Barth, il dit de manière magistrale, il nous permet de comprendre les raisons de l'incarnation, ce qu'est l'incarnation et comment nous devons la comprendre théologiquement et dans la foi. Et les risques que nous prenons si nous ne le comprenons pas de cette manière-là. Donc, dans son existence dans la chair, il ne manque rien à Jésus. Il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Encore une fois, souvenez-vous Chalcédoine, les natures ne sont pas séparées, les natures ne sont pas mélangées. Il n'y a pas de fusion des natures, il n'y en a pas une qui va phagocyter l'autre. Et donc, c'est parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu que l'on peut aller, nous, dans notre humanité, et par notre nature humaine, on peut aller vers Dieu. C'est parce que lui-même a pris la nature humaine. Donc sa chair, pour reprendre ce terme-là, va jouer un rôle particulier pour la médiation au titre même de son humanité. C'est par elle que nous pouvons comprendre, et le comprendre théologiquement, qu'on peut comprendre le salut, et que l'incarnation est donc l'humanité de Jésus, sont à saisir aussi, et ça maintenant vous le savez, comme un principe économique, c'est-à-dire l'incarnation entre dans le mouvement par lequel Dieu décide de se révéler et de nous sauver et de prendre la nature humaine pour accomplir la révélation dans l'Ancien Testament. Donc la médiation, elle ne peut être efficace qu'en Christ, qu'en lui-même. Et pour ça, eh bien, il accepte de souffrir. La fois prochaine, ce sera un cours sur le mystère pascal. Ben, oui, Jésus accepte cette mort-là, il accepte ça, quoi. Il accepte de mourir de cette mort qui est quand même le péché suprême, d'une certaine façon, quand même. Parce que Jésus lui-même n'a pas d'inclination au péché. Ceux qui l'entourent à la crucifixion, ce sont des brigands, des voleurs. Lui, il est l'innocent au centre. Donc le Fils est vraiment la figure de médiation. On en arrive à ce point-là. Point 2.2, le Fils figure de médiation. Une figure de médiation parce que il y a une unité en lui. Unité avec le Père et unité avec la mission qu'il doit accomplir. C'est pour ça que je parle de figure de médiation, parce que s'il y a une médiation possible, c'est par Jésus. Donc on peut parler de figure de médiation, de transposer cela dans cette figure-là. Mais ce n'est pas une figure à côté de lui, c'est vraiment une figure en lien avec sa personne elle-même. Bien, on pourrait dire, par exemple, le message des prophètes, il y a chez les prophètes, par exemple, les prophètes ont transmis au peuple le message que Dieu leur a confié pour le transmettre. Eh bien, on pourrait dire, si nous-mêmes nous transmettons un message, eh bien, on prend la figure prophétique. Vous voyez ? On va transposer notre action comme étant une action qui nous fait penser aux prophètes eux-mêmes lorsqu'ils ont transmis le message. Bien, c'est ça la figure.
Comme un modèle.
Comme un modèle, oui, on pourrait dire ça. Comme un modèle. Voilà, on pourrait dire ça. Donc, concernant la figure de médiation de Jésus, c'est le modèle par excellence, par contre. Et c'est pour ça que le terme de figure peut-être convient mieux que le terme de modèle. Mais le terme de modèle nous permet de comprendre. Mais voilà. Le théologien qui a beaucoup travaillé ce terme de figure, c'est-à-dire dans le sens où la figure, elle n'est pas dissociée de l'acte que pose Jésus, c'est Balthazar. Voilà. B-A-L-T-H-A-S-A-R. Donc Balthazar est né en 1905 et il meurt en 1988. Et par exemple, il dit que la figure du Fils de Dieu, c'est notre texte 7, est là pour marquer son empreinte sur d'autres figures. Vous voyez ? Tout à l'heure, je vous parlais de médiation, qu'on peut être nous-mêmes médiatrices ou médiateurs pour d'autres. Eh bien, nous prenons la figure de médiation. Eh bien, lui, il dit, Balthazar, que la figure du Fils de Dieu est là pour marquer son empreinte sur d'autres figures. Tout réside dans ce processus. Et c'est pourquoi il est non seulement difficile, mais impossible de considérer le sceau en lui-même avant l'acte par lequel il s'imprime. C'est d'abord l'acte et ensuite ce que l'acte produit. Donc il finit, c'est à partir de ce qu'il fait que nous voyons ce qu'il est. Voilà, c'est à partir de ce que fait Jésus que nous comprenons ce qu'il est. Et c'est exactement ce qu'ont fait les disciples après la résurrection. Ils ont compris la résurrection à partir de ce qu'a fait Jésus, à partir de son histoire. Donc c'est à partir de la fin que l'on peut comprendre le commencement. Parce que tout est toujours affaire de relecture. Quand on veut comprendre les choses, on essaye de partir du début, mais en fait, la fin, c'est-à-dire la conséquence de la chose, nous oblige à faire le chemin de retour et nous permet de comprendre pourquoi ça aboutit là. Donc, dans le monde est entré une médiation par le Christ, une alternative possible, une possibilité pour l'homme, une perspective de salut qu'il n'avait pas imaginée avant. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de la rencontre de Dieu. Et cette expérience-là, c'est une rencontre, c'est une expérience décisive. Mais on peut accueillir ça que dans la foi, bien entendu. Cette possibilité, cette alternative dans la vie du croyant, de la croyante, n'est possible que dans la foi. Et dans la foi, dans lequel le milieu, ce milieu, est constitué par la foi de l'Église. C'est-à-dire notre foi n'est pas un satellite qui tourne autour de rien, ou autour de quelque chose de vide. C'est la foi de l'Église. Notre foi est constituée par la foi de l'Église. Donc la figure de médiation, même les autres figures dont parle Balthazar, elles doivent converger vers un centre. Et ce centre-là, c'est Jésus-Christ. Le centre converge pour le témoignage du Père, vers le témoignage du Père, le témoignage de l'Esprit, le salut, la création. Tout converge vers le Christ. Et dans le texte 8, toujours Balthazar dit « La figure de Jésus est attestée en tant que figure, non de l'extérieur, mais de l'intérieur. » C'est-à-dire que le témoignage fait d'elle, avant toute chose, la figure qu'elle est. On peut comprendre Jésus comme une figure à partir de ce qu'il est et comprendre ce qu'il est à partir de ce qu'il a fait. Vous voyez le chemin, comment le chemin est fait à rebours. Et il finit à savoir la manifestation de Dieu, le témoignage que Dieu se rend lui-même en se manifestant. Lorsque Dieu se révèle et se manifeste, il rend témoignage de lui-même. Parce qu'il se révèle en personne. Et il ne révèle pas autre chose que lui-même.
Oui, mais là, on n'est pas dans l'humilité.
Alors, je reprends. Notre dernier, mais bon, j'ai déjà dit des choses sur la figure médiatrice. Et on en arrive à la conclusion. Mais je voudrais quand même vous citer ce texte, le texte 9, parce que c'est un texte de Henri de Lubac, hein, qui est un théologien qui est mort maintenant depuis longtemps, dans un de ses livres qui s'intitule « Les chemins de Dieu ». Et il cite Théodore de Régnon. Et il dit, donc c'est Théodore de Régnon qui dit cette phrase-là, il dit « Le Créateur a dispersé sur les créatures les reflets de ses perfections divines et que grâce à ces lumières visibles, nous pouvons connaître par voie d'analogie les splendeurs inaccessibles du Créateur. » Vous voyez, là aussi, on se dit, on est déjà les destinataires de quelque chose, des reflets de ses perfections. Donc on est déjà en capacité et en possibilité de les mettre en œuvre. Parce qu'il fait de nous les dépositaires de ces perfections possibles.
Très optimiste.
Ben ma foi, il faut être optimiste. En fait, bon, il me semble hein, quand même. Parce que ça veut dire qu'on est toujours en capacité de s'améliorer. Et on est des êtres perfectibles, toujours, à condition de le choisir. Hein, c'est toujours la question des chemins. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours-là ? On a dit que l'incarnation, tout au début, était un acte d'extériorisation du Père en son Fils, par la puissance de l'Esprit. Donc, l'incarnation est un acte trinitaire. Et c'est un acte trinitaire dans l'unicité de l'esprit du Père et du Fils. Parce que l'esprit, c'est l'esprit commun du Père et du Fils. C'est leur esprit qui est commun. Il n'y a pas de dissension. Il y a une unicité dans le don, dans l'union et même dans l'onction. Jésus-Christ, c'est l'envoyé du Père pour le salut, hein, mais qui ne peut pas se confondre avec l'envoyé comme sont les prophètes, qui sont des messagers de Dieu, qu'on pourrait dire aussi qui sont envoyés par Dieu. Les prophètes sont envoyés par Dieu, mais Jésus est l'envoyé de Dieu, ce qui change son identité. Par exemple, l'engagement des prophètes, c'est un engagement qui est extérieur à eux. Alors que Jésus, son engagement pour la mission, il est intérieur à lui-même. Vous voyez ? Il est lui-même la mission qu'il accomplit. Les prophètes, ils ne vont pas s'identifier à la mission. Alors que Jésus est la mission en tant que telle. Il est celui par qui elle va se réaliser et s'accomplir. Il est le Seigneur et le Sauveur. Il est le médiateur du Père, là je répète encore ça, et il va envoyer ses apôtres qui eux-mêmes vont devenir les médiateurs du Fils, mais par son enseignement, par la fondation des églises et de l'Église. Et je vais terminer juste par ce passage de Balthazar, c'est le texte 10. L'unicité de la personne de Jésus vient s'exprimer par la double unicité de sa relation trinitaire au Père et du but sotériologique, qui reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Le but sotériologique, c'est-à-dire le salut qui est le but de sa mission. Et alors, les deux choses ne sont pas juxtaposées sans relation, au contraire. La liaison intime de l'envoyé avec celui qui l'envoie possède la forme de l'obéissance au sein de l'acte de don du Père. Le Père est celui qui envoie et qui, par l'acte de mission, fonde toute l'existence de Jésus sur terre, en assume la responsabilité et l'accompagne, détermine enfin d'avance son but, c'est le salut du monde. C'est pourquoi la connaissance que Jésus a de lui-même coïncide avec la connaissance de sa mission. La coïncidence entre le Père et le Fils. Voilà. Eh bien, écoute, la prochaine fois, on abordera le mystère pascal.
La figure de la médiation, c'est les apôtres, par exemple.
Oui, c'est ça. Voilà. Allez, bon après-midi.
Bon après-midi.